France Inter, le 18-20.
Comme il était à prévoir, le glyphosate s'est invité au salon de l'agriculture et dans une discussion notamment musclée avec le président de la République d'abord. Une confirmation donc, celle de son interdiction en 3 ans après la décision controversée, vous le savez, de l'Union européenne de renouveler la licence de l'herbicide pour 5 ans. Mais il y a les exceptions qui seront admises. Je ne suis pas buté, ce sont les mots de Nicolas Hulot, et on regarde du côté des substitutions. Du coup, la FNSEA a pris la main hier soir et annoncé un contrat de solution avec 35 partenaires, dont l'INRA, qui oblige à étudier les alternatives, semences décalées, phéromones pour certains insectes, rotation des cultures, etc. Donc on peut s'en passer pour un zéro pesticide, est-ce que c'est possible? Mais ça prend du temps, d'accord, mais ça prend combien de temps? Après tout, pourquoi c'est si long s'il s'agit de faire des rotations de cultures? Une réintroduction d'insectes, est-ce que c'est efficace? Mais dans quel délai? Sur quelle surface? Qui freine? Si ce sont les grosses exploitations, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudrait changer de modèle? En tout cas, le regarder différemment. Derrière la question du glyphosate, plein de questions se posent pour l'agriculture de demain, pour notre agriculture et notre nourriture aussi. On en parle ce soir.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Damien, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu. On vous écoute.
D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie grandement de bien vouloir prendre mon point de vue sur le glyphosate. Donc, comme je l'écrivais avant cette émission, donc nous sommes agriculteurs avec mon épouse dans une zone de terre à très faible potentiel. Donc, nous sommes céréaliers. Et nous utilisons le glyphosate, en fait, avec beaucoup de parcimonie, puisque globalement, on utilise à peu près 1 litre par hectare, 1 à 2 litres par hectare et par an. Donc en fait, le glyphosate pour nous c'est un élément essentiel dans notre système de travail, c'est-à-dire que à partir du moment où nous avons des terres avec des faibles potentiels, on les travaille que très peu. Le glyphosate en fait permet de limiter le nombre d'interventions avec des moyens mécaniques et puis surtout d'éviter le labour qui dans notre contexte en fait est complètement inenvisageable. Donc toutes les solutions en fait qu'on entend et que j'entendais en introduction de votre émission, hein, comme la rotation des cultures. La limitation du nombre de doses, c'est des choses qu'on pratique depuis très longtemps, comme beaucoup d'agriculteurs, donc qui, en fait, pour moi, sont pas du tout des solutions. Donc, à mon avis, en fait, la conclusion, la conséquence, en fait, sur notre type de système, de la disparition du glyphosate, ce sera dans un premier temps l'utilisation d'autres pesticides, parce qu'il n'y aura pas d'autres alternatives, donc des produits plus chers. Et puis, je trouve, alors comme je l'écrivais dans le courrier que je vous ai envoyé, dans le courriel, je trouve ça complètement inique qu'on interdise en France l'utilisation du glyphosate, alors que dans la même période, on importe énormément de cultures comme le soja, par exemple, qui sont des cultures OGM, qui viennent notamment du Brésil, et qui, elles, sont traitées alors non pas en interculture, mais directement sur la culture pour limiter le développement des adventices et utiliser des herbicides moins chers.
Tout ça est une vaste hypocrisie, finalement, telle que ça se présente aujourd'hui.
Pardon ?
Vous trouvez que c'est une vaste hypocrisie, finalement, telle que ça se présente aujourd'hui ?
Tout à fait. Et je pense que si on faisait le bilan, en fait, le glyphosate, un bilan qui est tout satisfaisant, parce que c'est un produit qui est très peu cher, très peu nuisible sur l'environnement. Et par contre, on va interdire son usage en France. Et en fait, on va être en décalage complet au niveau des coûts de production par rapport à d'autres pays qui déjà ont des OGM, mais qui continueront à utiliser du Roundup.
Et Damien, juste avant qu'on puisse répondre à vos questions, à vos remarques, vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez le glyphosate avec parcimonie. Est-ce que ça veut dire que vous en utilisez moins aujourd'hui que vous l'aviez fait précédemment ou pas? Ou est-ce que cette dose, de toute façon, ça a toujours été celle que vous avez utilisée sur vos parcelles?
Non, votre question est tout à fait intéressante. Donc effectivement, on a fait avec mon épouse des gros travaux pour réduire les doses. Globalement, les doses, je pense, si on regarde sur une perspective de 10 ans, ont été divisées par 2 ou par 3. Et juste pour vous donner une proportion, hein, quand j'évoque 2 kilos de produits par hectare, ça veut dire que ça fait à peu près 2 grammes par mètre carré et par an. Donc en fait, c'est un usage qui est tout à fait raisonnable et qui est à peu près sans conséquence sur l'environnement. Alors effectivement, on en retrouve après parfois dans les autres consommations, mais à des doses qui sont véritablement infinitésimales. Donc c'est pour ça que l'usage a déjà beaucoup baissé et l'impact environnemental me semble pas prouvé, la dangerosité encore moins.
Merci beaucoup Damien, parce que vous démarrez parfaitement bien ce débat qu'on aura ensemble jusqu'à 20h pour vous répondre et pour discuter ensemble ce soir. Christian Huige, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur scientifique agriculture à l'INRA. Éric Tirmoin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la commission environnement de la FNSEA. Il y a beaucoup de choses, Éric Tirmoin, dans ce que dit Damien à l'instant. D'abord, une chose importante, moi, je ne peux pas m'en passer. Ça, j'imagine que vous l'entendez de la part d'un agriculteur comme Damien.
Oui, je pense que Damien vient de résumer exactement le sentiment qu'ont les agriculteurs. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important que tout le monde comprenne, c'est que il est impossible de faire des interdictions sans qu'on ait trouvé des alternatives. Et en fait, ce qu'on a annoncé hier au nom des 35 organisations que vous avez citées tout à l'heure...
Le contrat de solution.
C'est le contrat de solution. C'est de dire, bon, aujourd'hui, il y a une situation... la société veut qu'on change, souhaite qu'il y ait une réduction des usages des produits phytosanitaires, des risques et des impacts. Eh bien, travaillons aux alternatives. Une fois qu'on a des alternatives, on peut changer les pratiques, on peut évoluer, mais tout d'abord, il faut avoir ces alternatives.
Mais pardon de vous le dire comme ça, est-ce que c'est pas quand on pousse aux alternatives qu'elles arrivent plus vite et qu'on a de meilleures idées? C'est-à-dire, quand on a l'interdiction en ligne de mire, on sait qu'il faudra trouver quelque chose plus vite, en fait.
Oui, alors, vous savez, il y a déjà eu des interdictions sur pas mal de molécules, puisqu'il y a 60% des molécules qui ont disparu en 10 ans. On est passé d'un millier de molécules à 400, donc forcément, les plus dangereuses ont disparu. Non, je pense que là, c'est vraiment une approche différente qu'on a pris l'initiative de faire, parce que rassembler 35 organisations agricoles qui toutes ensemble disent on va mettre nos moyens ensemble pour trouver des alternatives, quelles qu'elles soient, pour qu'elles soient efficaces, je pense que ça c'est vraiment nouveau.
Dans ce que disait Damien également, Éric Thirouin, il y a l'idée que de toute façon si on enlève le glyphosate, il y aura un autre pesticide.
Oui, alors qu'il est, on ne connaît pas les alternatives suffisantes pour remplacer systématiquement le glyphosate. Donc forcément, si vous enlevez un herbicide, vous cherchez un autre herbicide. Alors il y a certainement d'autres possibilités. Moi, sur mon exploitation, il y a des parcelles où j'utilise le glyphosate et il y a d'autres parcelles parce que les cultures sont différentes, parce que l'année est différente, parce que les levées sont différentes. J'arrive à m'en passer et ça dépend en fait de.
Mais qu'est-ce qui fait que sur certaines parcelles, c'est
donc, difficile on à comprendre ça, c'est pour le métier d'agriculteur.
Et qu'est-ce qui fait que sur certaines parcelles, c'est pas possible, mais possible pour d'autres? J'imagine qu'elles sont pas si éloignées que ça, vos deux parcelles. Ou trois ou quatre.
Oui, mais quand vous avez, alors on va rentrer dans la technique, quand vous avez effectivement, si vous faites une culture de printemps, par exemple une orge de printemps, vous avez laissé un labour d'hiver. Si vous faites un blé tendre, vous avez le semé à l'automne. Donc effectivement, entre un sol qui va rester non couvert entre l'automne et le printemps, il va se passer plein de choses. Par contre, si vous êtes comme Damien, visiblement en semi-direct, ou peut-être d'autres en semi-couvert, à ce moment-là, on a une autre pratique agricole et les conséquences sont différentes. Donc, en fait, on est obligé de s'adapter à chaque pratique et à chaque situation.
Christian Huige, quand Damien nous explique que, bien sûr, les substitutions, tout ça, il connaît, les rotations, ils font depuis très longtemps, mais tout ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut répondre quand on est l'INRA, hein, monsieur comme Damien?
Quand on est l'INRA, on essaie de comprendre les configurations dans lesquelles il est, de les comparer avec l'ensemble des situations où le glyphosate a été utilisé. Donc on a regardé par exemple l'ensemble de ce qui avait été fait dans le cadre des réseaux de fermes Défi Ecophyto, analyser les situations comparables et la situation dans laquelle votre auditeur se situe est un des cas où effectivement la sortie de la dépendance au glyphosate est le plus compliqué, sur des sols à potentiel moyen, donc difficile à travailler et où le labour est écarté pour des tas de raisons et totalement justifié. En général, c'est dans ces milieux-là qu'on a eu les rotations que l'on a le simplifié le plus, pour lequel on a en général des surfaces qu'on a cherché à augmenter en raison des capacités de production qui sont plus limitées. Et donc, de fait, c'est des endroits où le verrouillage est le plus compliqué. En fait, la question qui se pose à ce moment-là, c'est tout qu'on fait, contre quoi on utilise le glyphosate? La particularité du glyphosate, c'est d'avoir été...
Bien sûr, contre quoi on lutte?
Un herbicide qui frappe et qui permet de détruire absolument toute la végétation, qui est très peu cher, en particulier depuis que la molécule est tombée dans le domaine public, très facile à utiliser, qui peut s'employer par à peu près tout le monde dans n'importe quelle condition. Ce qui est vrai pour les agriculteurs et d'ailleurs vrai aussi pour les jardiniers du dimanche ou les gestionnaires d'infrastructures et d'espaces verts. En fait, il faut maintenant regarder tout qu'on fait pour quelle mauvaise herbe cette molécule qui a des grandes particularités, elle est absolument indispensable. Sa particularité, c'est de toucher un cycle absolument fondamental de synthèse d'un certain nombre d'acides aminés. Et c'est un herbicide qui est systémique, c'est-à-dire qu'il est absorbé par les feuilles, qui se transfère dans toute la plante. Et donc, il a la particularité de détruire les mauvaises herbes vivaces. Donc, des mauvaises herbes qui sont en général plutôt des espèces pérennes, mais où la racine est en fait un élément de la multiplication végétative. Et donc, c'est pour ça que le glyphosate est particulièrement essentiel. Et la question que l'on a, c'est dans quelle configuration on a ces mauvaises herbes qu'on a beaucoup de mal à gérer versus toutes les autres qui se détruisent par d'autres leviers.
Et comment on faisait avant, pardon hein, de poser cette question très naïve, mais avant le glyphosate, il y avait des agriculteurs.
Tout à fait, et il y en a eu beaucoup, et parce que le glyphosate est quand même une histoire relativement récente. Les successions culturelles étaient beaucoup, beaucoup plus longues. Il y avait beaucoup plus de mélanges à l'échelle des territoires et des exploitations agricoles entre des systèmes d'élevage et des systèmes de production végétale. Et en système d'élevage, dès que vous avez des ruminants, vous avez des prairies qui sont des successions très très longues et qui ont une incidence très très forte sur les adventices et en particulier ce qui conduit à avoir des adventices, à savoir ce qu'on appelle la banque de graines du sol, dans toutes les graines qui sont dans le sol. Et le fait d'avoir à la fois des successions beaucoup plus longues, d'avoir ce mélange prairie culture annuelle, d'avoir un recours beaucoup plus systématique au labour. Aujourd'hui, on parle beaucoup de non-labour, mais avant d'avoir le glyphosate, on avait beaucoup de labour, permettait de gérer l'ensemble de la flore adventice. Et il y a un certain nombre de cas, par l'ensemble de l'évolution de l'agriculture, et parce que le glyphosate était disponible, on a eu une évolution qui a conduit à ce qui apparaît aujourd'hui comme étant des impasses. Mmh. Il y a des configurations où on a aujourd'hui des populations de vulpins, donc qui est une adventice particulièrement problématique dans les céréales, qui est devenue résistante à tous les désherbants, et donc on la gère avec le glyphosate. Et le problème, c'est que la population de vulpins est devenue résistante aux autres herbicides.
Et on va avancer donc au fil des questions vers ce que vous nous avez expliqué. Christian Huich, bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Dominique, allez-y.
Fidèle auditeur, fidèle agriculteur, la France est devenue un très grand pays exportateur de produits agricoles comme le blé, l'orge pour faire le malt, le sucre, le maïs, qui sont des produits non pas destinés à la consommation humaine premièrement, mais à l'industrie chimique, avec des grands exemples comme la société Roquette. Et tout ça a pu se faire grâce à des intrants chimiques comme les engrais et les phytosanitaires, dont à l'époque le Roundup qui est devenu le glyphosate. Ma question est, comment peut-on garder une France grande exportatrice en faisant du blé bio, de l'orge bio, du sucre bio, du maïs bio? C'est un non-sens. Je ne suis pas pro-glyphosate, mais je dis, il faut laisser la place à ce que disait Damien tout à l'heure, à une agriculture faisant des produits destinés à la grande exportation. Voilà ma question.
Merci beaucoup pour cette question, Dominique. Éric Thirion, est-ce qu'il peut y avoir quoi, une double agriculture, pardon de le dire comme ça, une très propre et une moins propre, c'est ça, qui serait vouée à l'exportation?
Bien sûr que non. Mais la France, c'est un pays aux mille fromages, c'est un pays aux mille modèles. Et effectivement, il faut qu'on puisse répondre à toutes les attentes du consommateur. Il y a des consommateurs qui souhaitent avoir un produit bio. Il y a des consommateurs qui souhaitent avoir...
Attends, tout le monde veut un produit sain, attendez.
Un produit sain, pas cher. Non, parce que le bio est sain, le conventionnel, heureusement, est sain aussi. Mais effectivement, ça, c'est pas le même coût, c'est pas le même mode de production. Et puis quand vous avez une agriculture dans le Cantal, ou que vous avez une agriculture dans la Beauce, ou quand vous avez une agriculture en Bretagne ou en Alsace, bah forcément, les modèles et les types d'agriculture sont différents parce que les territoires sont différents, les terroirs sont différents. Donc, il faut pouvoir répondre à l'exportation, puisque effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important sur la planète. Il y a beaucoup d'habitants qui attendent d'être nourris aussi par d'autres pays, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas assez de production, où il y a des déserts et autres. Donc voilà, il faut pouvoir répondre à l'exportation, il faut pouvoir répondre au conventionnel, au bio, à tous les modèles et à tous les types d'agriculture. Moi, sur mon exploitation, j'ai une boutique de produits du terroir où on rassemble une trentaine de producteurs en circuit court. Bah, il faut aussi pouvoir y répondre. Et puis j'ai aussi des céréales qui vont aussi à l'exportation.
Donc, c'est une question mais c'est une question. Ça veut dire que c'est une question de grandeur en fait, de grandeur d'exploitation.
Pourquoi
si on est petit, c'est facile. Si on est plus grand, c'est plus difficile.
Pourquoi vous dites ça?
D'utiliser du glyphosate ou de ne pas en utiliser. Quand on a une grosse surface, est-ce qu'on peut de la même manière se passer le glyphosate sur une petite ou une grande surface? Ou est-ce que ça change quelque chose?
Non, la taille de l'exploitation ne change rien. Qu'on soit sur une grande ou une petite exploitation, c'est la même chose. Enfin, voilà. Moi, honnêtement, il faut qu'on. Enfin, moi, honnêtement, je souhaite qu'on dépasse pas ce sujet-là. On a différentes agricultures, différentes demandes, et il faut qu'on puisse fournir. Ensuite, il y a une attente du consommateur qui dépasse de savoir si c'est dangereux ou pas dangereux. Aujourd'hui, le consommateur souhaite qu'on change les pratiques agricoles et qu'on puisse réduire en France l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques. C'est une demande. On a décidé de dire... Au lieu de continuer à dire c'est dangereux, non c'est pas dangereux, oui ça l'est, non c'est l'est, et puis on n'avance pas, eh bien on a décidé de se rassembler tous pour trouver des solutions, trouver des alternatives, et quand elles seront là, eh bien on va pouvoir avancer. Et on en a déjà trouvé 250.
Alors, mais c'est le quand elles seront là qui est important.
Non, 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 250 qui existent. Dans les 250, il y en a une partie qui existe déjà. Moi par exemple, depuis 25 ans dans mon maïs, j'utilise des trichogrammes, je mets aucun insecticide, depuis 25 ans.
Voilà. Et, donc ça veut dire...
Et puis il y a d'autres solutions qui vont bientôt sortir, qui sont là pour l'année prochaine. Il y en a d'autres dans 5 ans, d'autres dans 10 ans, dans 15 ans. Et celles qui sont les plus loin, eh bien, on veut s'investir pour accélérer cette recherche et accélérer la sortie de ces solutions.
Et c'était ça le sens de ma question. Peut-être que vous pouvez répondre aussi, Christian Huyge, de ce que je demandais à l'instant. Puisque ça existe, puisqu'on a ça sous la main, il y en a 250 des solutions et certaines qui sont déjà prêtes, pourquoi pas les utiliser pour tout le monde?
Ben parce que, petit 1, comme le disait Éric Thirouanne tout à l'heure, la France et l'agriculture française est diverse. Que les agriculteurs, ils n'ont pas tous la même sensibilité. Ils n'ont pas tous le même temps de travail, la même organisation. Donc ils ont fait des choix différents. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve pour une même production des organisations extrêmement diverses et qui ont des dépendances aux phytosanitaires qui sont plus ou moins élevées. Et donc... Tant que tout ça est autorisé, ça marche à peu près bien. Quand il y en a qui deviennent non autorisés, comme le glyphosate, donc sachant qu'il ne faut pas assimiler absence de glyphosate égale bio, il y a des tas d'autres choses. Et à ce moment-là, quand on enlève quelque chose qui est au cœur du système, il faut un temps de déplacement. C'est une logique absolument normale. On est organisé autour de ce dont on dispose. Quand on enlève quelque chose, il faut un temps de transition qui est relativement long. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on est au cœur d'un système avec des successions culturales longues quand on est en culture annuelle. Quand on plante des arbres, c'est pour plusieurs années. Quand on plante des vignes, c'est pour plusieurs dizaines d'années. Et donc les temps de transition, c'est pour ça que ça prend du temps pour changer.
Mais le temps, c'est combien? Est-ce qu'on sait? Là, par exemple, théoriquement, on a 3 ans pour que l'interdiction soit effective en France. En 3 ans, est-ce qu'on peut considérer qu'on aura fait des progrès considérables et qu'on pourra dire à un monsieur comme Damien, par exemple, qui nous appelait tout à l'heure, oui, sur ta parcelle, c'est possible, voilà la solution de substitution?
En 3 ans... On a aujourd'hui des solutions qui permettent d'envisager un changement. C'est pas de dire dans 3 ans, est-ce que Damien pourra s'en passer? La question, c'est de dire, qu'est-ce que fait Damien pendant ces 3 ans-là pour s'adapter à une situation où il a moins de glyphosate? Sachant qu'il a d'autres options, qu'il a à répondre à d'autres marchés. Votre de second auditeur, là, Dominique, disait, on est là pour exporter du blé, du maïs et du sucre de betterave. On n'est pas forcément là pour exporter du grain. La question, c'est comment on génère de la valeur ajoutée. Éric Thirouanne disait, il vend des produits sur son exploitation. Il vend pas sur le marché mondial, il vend sur les consommateurs directs.
Les deux.
Et la question, elle est comment on s'organise pour à la fois répondre à la diversité des marchés et générer de la valeur ajoutée. Et c'est ça la vraie question que l'on a. C'est comment on arrive à travailler en même temps la production, la transformation pour répondre aux attentes des consommateurs, aux attentes des marchés.
Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mes questions, mes réflexions.
Allez-y Loïc.
Il y a un modèle en agriculture biologique qui se développe de plus en plus, qui devient de plus en plus performant. Je comprends bien que certains sont réticents à changer de modèle, mais il y a déjà des choses prouvées actuellement. Donc est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là? Ma deuxième réflexion, j'aimerais bien qu'on puisse cibler qui utilise principalement le glyphosate. Est-ce que c'est les grandes cultures? Je pense que principalement oui. Les grandes cultures sont très subventionnées par la PAC. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la PAC donne des primes pour ceux qui se sépareraient définitivement du glyphosate? Et je voudrais rappeler une dernière chose, c'est que le glyphosate, pour l'instant, il n'y a aucune étude concrète qui est montrée, ce qui est contradictoire, parce que c'est un vieux produit, sur sa toxicité. Mais pourquoi il n'y a aucune étude concrète sur sa toxicité? Voilà.
Merci beaucoup Loïc pour toutes ces questions. D'abord la toxicité, effectivement Christian Huyge, on a l'impression d'avoir lu à peu près tout et son contraire autour du glyphosate. Est-ce qu'il y a quelque chose de fiable là-dedans? Est-ce qu'on peut dire réellement c'est dangereux pour moi consommateur, pour celui qui l'utilise aussi, pour l'agriculteur? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus?
Vous rêvez d'un monde qui est en noir ou blanc.
C'est un peu dangereux, gris. Pas dangereux, ça me paraît pas être une question si compliquée.
C'est un peu gris parce que vous avez tout dépend du niveau auquel vous mettez. C'est pour ça que les rapports disent potentiellement ou dangereux, probable, peut-être non. Donc vous avez cette zone.
Et on la connaît cette zone ou pas? Alors pardon d'utiliser Damien comme notre auditeur étalon, mais lui il dit 1 à 2 litres par hectare, par exemple, et par an.
Non, c'est pas la dose que l'on applique qui pose problème. Le risque pour la santé, c'est l'exposition que vous avez dans le milieu naturel et l'exposition que vous avez via les produits via les produits que l'on récolte. Et c'est aussi le glyphosate plus l'ensemble des produits de dégradation. Donc c'est pour ça qu'on ne tombe pas sur des configurations où il suffit de dire oui ou non. Le glyphosate, il a été son vrai problème, c'est la quantité absolument énorme qui est utilisée. On a utilisé en 2016 9100 tonnes de matière active, donc ce qui le positionne de loin devant l'ensemble des autres molécules herbicides. Et c'est pour ça qu'il y a eu des expositions. Donc le fait qu'on arrive, heureusement que le glyphosate n'est pas avec une toxicité aiguë. S'il l'avait été, ça fait longtemps qu'il aurait disparu. Par rapport aux questions qui sont posées, donc c'est pour ça qu'il y a autant de controverses et de discussions autour de ces problèmes de toxicité. Mais la question, c'était qui utilise beaucoup de glyphosate. Tout le monde est à peu près à la même enseigne et c'est pas tellement en comparant les grandes cultures, l'horticulture et la viticulture.
Mais céréaliers et viticulteurs, par exemple, plus que les autres ou pas?
Ramenés par unité de surface, ils sont pas très très loin les uns des autres, voilà, à l'unité de surface. Là où, si on prend les grandes cultures et les cultures annuelles, là où il y a des grandes différences, c'est en fonction des autres pratiques autre façon culturelle utilisée. Dans les systèmes où on a beaucoup de labour, on en utilise peu. Et les systèmes où on en utilise le plus, c'est en agriculture de conservation.
Éric Hirouin, cette proposition, cette idée de notre auditeur qui dit « Et si on donnait une prime à la non-utilisation quand on est la FNSEA, on dirait quoi de ça ?»
Le problème, c'est que effectivement, en bio, parce qu'il citait le bio tout à l'heure, on est à 6,5%.
Maraîcher bio, c'est pour ça qu'il le citait, ouais.
Mais le bio en France, c'est 6,5% de la surface. Y a un objectif affiché dans les états généraux d'arriver à 15% de la surface d'ici 2022. Donc on est dans un doublement. Et déjà aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on va trouver l'argent pour aider à la conversion bio et au maintien, à l'aide au maintien. Donc on a un vrai problème budgétaire déjà pour arriver à accompagner.
Il y a toujours une aide à la conversion bio. J'avais cru comprendre qu'on avait supprimé une partie des aides à la conversion bio.
Le débat, il est sur l'aide au maintien, où effectivement, entre le budget nécessaire, parce que forcément, quand vous augmentez les surfaces et donc les agriculteurs concernés, vous augmentez la nécessité budgétaire. Et donc aujourd'hui, on essaye de faire face à cet accompagnement de l'évolution du nombre de producteurs bio et donc de l'accompagnement budgétaire qu'il faut. Mais bien évidemment, il fallait donner une prime à chaque molécule qu'il fallait interdire, enfin, budgétairement, ça ne tient pas la route. Donc, voilà, on pourrait toujours dire, on va vous compenser ça, mais comment, sauf que, c'est du rêve, il n'y a pas l'argent nécessaire aujourd'hui pour faire ça. Donc, non.
Bonsoir Sandrine.
Oh, merde.
Ah non, c'est pas vous, monsieur. Sandrine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, donc moi j'avais une question sur la mise en place des alternatives. Je travaille pour une start-up qui développe des toiles de paillage en chanvre. Donc on est vraiment sur des alternatives aux herbicides. En plus, on valorise de la fibre locale française. Mais voilà, on est une toute petite entreprise et c'est vrai qu'au démarrage, nos produits sont chers. On sait que sur des très grandes surfaces, on pourra complètement baisser nos coûts. Mais voilà, on est au démarrage et notre solution coûte cher et... Ma question, c'était sur est-ce qu'il n'est pas nécessaire aussi d'accompagner les solutions alternatives sur les premières années, d'apporter un coup de pouce pour qu'après, on arrive à la taille critique qui font que ça devient des solutions économiquement acceptables par tous.
Merci beaucoup Sandrine pour cette question. Ça rejoint ce dont on parlait à l'instant, Éric Hirouin. Oui. Est-ce qu'on peut accompagner la volonté est là. Ça coûte très cher, effectivement, surtout pour démarrer. Qu'est-ce qu'on peut répondre à
Bien
Sandrine
sûr. Alors ça fait partie des éléments qu'on travaille dans le contrat de solution. Où au-delà des 35 organisations agricoles, on souhaite que le gouvernement et les différentes directions du ministère puissent nous rejoindre pour qu'on puisse travailler justement ces accompagnements. C'est-à-dire lever les freins. lever les freins réglementaires.
Quels sont les freins réglementaires, vous dites?
Et puis les leviers à l'investissement. Par exemple, je sais que sur les solutions de biocontrôle, aujourd'hui, les petites entreprises qui, peut-être des start-up comme ça vient d'être cité, ont du mal à trouver les financements pour accompagner leur recherche. Et donc, conclusion, peut-être qu'il faudra, c'est fait partie des sujets qu'on a sur la table, mettre en place un fonds d'investissement pour booster, pour accompagner ces entreprises. Ensuite, on a effectivement une autre réflexion qu'on a en ce moment, c'est savoir est-ce que il y a un système d'accompagnement sur la prise de risque des agriculteurs sur les nouvelles techniques, parce que quand on veut changer, qu'on veut changer de technique, on prend des risques, on n'est pas sûr que ça marche. Et à ce moment-là, ça c'est aussi un frein au changement. Donc on est en train de regarder comment, quelles solutions on pourrait faire, tout en étant dans une épure budgétaire cohérente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a certainement des moyens de faire. Ensuite, on a des leviers réglementaires. Aujourd'hui, on sait que si on veut avoir plus de désherbage mécanique au lieu d'utiliser un produit, eh bien, on va pas sortir la binette pour biner tout le territoire français. Donc, il y a des possibilités avec les robots. On a des petits robots avec quatre roues, grands comme une tondeuse, et qui sont capables de passer et de travailler. Mais voilà.
Mais sauf, ça, c'est expérimental. Ça existe
dans le maraîchage. Ça existe dans le maraîchage. C'est l'exemple typique de ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ça fait partie des 250 solutions. Il y a dans le secteur du maraîchage, ça existe. Et puis dans le secteur des grandes cultures, aujourd'hui, on est en train de le tester pour essayer de le mettre justement à grande échelle. Et on a un problème réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, un tracteur sans cabine, comme ça a été exposé au Salon du machinisme agricole l'année dernière, c'est interdit en France. Un robot, même s'il est beaucoup plus petit que le tracteur, bien évidemment, sans cabine, voilà, on voit qu'on a un problème réglementaire. Donc il va falloir aussi qu'on travaille avec le gouvernement pour qu'il nous donne un coup de main pour lever les freins réglementaires, tout en gardant la sécurité, bien évidemment, mais qu'on puisse s'adapter. Voilà, il y a des innovations, il faut que la réglementation s'adapte aussi pour pouvoir développer tout ça. Ça, c'est un enjeu important.
Dans les robots, il y a des robots qui ont été déployés et qui fonctionnent relativement grande échelle pour la gestion de l'enherbement en viticulture.
C'est-à-dire
Il faut éviter qu'il y ait beaucoup d'herbe au pied des ceps de vigne. Et d'accord. Donc, il y a des robots de tonte qui peuvent gérer tout seul un espace.
Et
il y
avait des Est-ce que c'est extrêmement cher pour un viticulteur d'acheter ça, par exemple? Ça coûte combien?
Me lancer là-dedans. Non, mais les tarifs proposés sont absolument concurrentiels avec des pratiques. La question, elle n'est pas tellement de est-ce que je compare ça au glyphosate. Mm-hmm. La question, elle est est-ce que ça permet d'imaginer la viticulture de demain? La particularité de la vigne étant que c'est un produit où le consentement à payer est assez lié à l'ensemble des pratiques que l'on met devant. Et donc, il faut donner à voir ce genre de choses.
On va prendre Gilles dans un instant parce que j'ai bien compris qu'il s'impatientait. Mais juste avant, j'ai une toute petite question. Il y a des choses qui m'ont un peu fasciné quand même, Christian Huyghe, dans les fameuses propositions, notamment autour des insectes. Oui. Quand on décide, par exemple, que certains insectes n'iront plus dans tel endroit, il suffit de phéromones. Enfin, je comprends bien que c'est plus compliqué que ça. Des phéromones, comme ça, les insectes n'arrivent pas à se marier, pour dire les choses très simplement, comme ça vont vers un autre secteur. Est-ce que ce genre de choses qui paraît tellement naturel, en fait, est extrêmement long ou est-ce que c'est facile, ces choses-là ?
Il y a des extrêmement longs à mettre en œuvre. Il y a aujourd'hui, pour gérer un certain nombre d'insectes, en particulier en arboriculture ou en viticulture, des phéromones, donc on appelle ça de la confusion sexuelle, qui est déjà largement utilisée.
C'est très efficace, ça, ou pas ?
C'est très, totalement.
Est-ce que c'est aussi efficace qu'un glyphosate, on peut dire ça ?
Ah non, d'abord, le glyphosate, on l'utilise pour les adventices et les mauvaises herbes. Et donc, la confusion sexuelle, on l'utilise à la place d'un insecticide. Et on peut conduire aujourd'hui en viticulture, assurer la gestion des deux parasites, des deux insectes problématiques, que sont Cochilis et Eudémis, avec uniquement de la confusion sexuelle. Et derrière cette confusion sexuelle, en gros, le mâle ne trouve plus la femelle. Donc il ne peut pas y avoir de petits. Il y a d'autres choses qui sont cachées derrière ça. C'est qu'un insecte trouve une culture parce qu'il la repère à l'odeur. Et donc, c'est de réussir à induire une confusion, de modifier l'environnement d'odeur. Et on peut le faire soit avec des produits, soit en organisant la culture. Quand on fait du colza en automne, on est pratiquement obligé de traiter contre un insecte qui s'appelle la grosse altise. Si on a semé en même temps des petites légumineuses, l'ensemble des odeurs sont changées et la grosse altise n'arrive plus.
Gilles, comment ça va ?
Oui, excusez-moi.
Non, mais je vous en prie, Gilles, vous nous avez tous fait rire et c'est tant mieux. Vous avez raison, parce que ça fait longtemps que vous patientiez et que quand on était sur la même dynamique, on est resté. Mais j'ai bien vu que vous étiez là et je vous écoute avec beaucoup d'attention.
Mais moi, je représente mes excuses.
Mais je vous en prie, allez-y.
Moi, écoutez, j'ai une idée qui ne coûte rien, ni à l'État, ni aux agriculteurs eux-mêmes. C'est que OK, on prolonge l'utilisation du pesticide, du glyphosate au-delà des 3 ans, mais on l'étiquette. On le précise sur les étiquettes, en tout cas des produits non transformés, cultivés avec du glyphosate. On verra comment les consommateurs réagiront et on verra alors en fonction des réactions des consommateurs comment en retour réagiront les agriculteurs.
Et merci pour cette remarque. Merci pour cette remarque, Gilles et Éric Thirouin.
C'est une excellente remarque. C'est ce qu'on réclame par rapport aux accords du CETA et du Mercosur qu'on n'arrête pas de dénoncer et qu'on a encore demandé au Salon de l'Agriculture que le président de la République ne signe pas les accords du Mercosur parce qu'effectivement, on a des contraintes extrêmement fortes de pratiques et de choses à respecter et qu'il faut qu'on respecte en France. Mais pendant ce temps-là, qu'on interdit un certain nombre de pratiques, un gros mot, par exemple les OGM, c'est interdit en France, mais c'est autorisé pour les accords du CETA aux États-Unis, au Canada. Et en fait, le consommateur, lui, ben, à partir du moment où on a des accords, eh bien, il va consommer ces produits qui sont interdits aux agriculteurs français. Le consommateur français peut le faire. Et donc, c'est pour ça que nous, on demande à ce qu'il y ait un étiquetage. Mais au-delà de l'étiquetage, il faut aussi qu'on ferme peut-être les frontières à des produits qu'on estime être mauvais en France. Il n'y a aucune raison qu'on interdise aux agriculteurs un certain nombre de pratiques et qu'on autorise les denrées qui sont pratiquées avec ces à l'extérieur, à l'étranger, de rentrer en France. Donc alors, effectivement, l'étiquetage est une vraie solution.
Et donc y compris sur nos produits, attention, céréales cultivées avec utilisation de glyphosate alors, ou après, d'ailleurs, et pourquoi pas les autres pesticides.
Après, c'est le problème de la valeur ajoutée. Je pense qu'à partir du moment où un agriculteur essaye de faire une pratique spécifique, de répondre à une attente spécifique, effectivement, par l'étiquetage, on peut certainement avoir une valeur ajoutée au produit, et à ce moment-là, cette valeur ajoutée va permettre de compenser la contrainte que l'agriculteur va faire. Vous voyez, aujourd'hui, on a, par exemple, une réflexion qui est en train de faire sur le lait. Il y a une volonté, une attente du consommateur d'avoir du lait non OGM. Alors, effectivement, le lait, il n'est pas OGM, mais par contre, la nourriture qu'on va donner à une vache, par exemple à partir de soja, ben si c'est un soja français, il va être non OGM. Et si c'est un soja étranger, il y a quand même 99% de chances qu'il soit OGM. Eh bien, on est en train de voir justement si ce lait non OGM ne peut pas être valorisé, et de façon à revaloriser les cultures de soja ou les cultures de tourteau de colza en France par ce biais-là. Donc oui, effectivement, la traçabilité, la transparence, c'est ce que demande le consommateur, la transparence, la traçabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant.
Christian Muget, est-ce que ça peut être quelque chose de clair pour le consommateur? Parce que s'il voit une liste de pesticides dont il ne sait effectivement pas grand-chose, ni même quelles sont les doses et à quel moment, etc., est-ce que ça nous parle vraiment?
Si vous avez un étiquetage avec une liste de produits dont vous ne comprenez pas la signification, ça n'a aucune incidence sauf à générer la peur et la peur, en plus, elle n'évite pas le danger, comme le dit le vieil adage. La question derrière cette traçabilité, elle est de savoir si demain on aura les outils qui permettront de la documenter un peu plus. Une grande question qui se pose et sur laquelle nous travaillons à l'INRA, c'est de savoir si la transition numérique, donc avec la capacité d'avoir des capteurs à peu près partout, permettra de documenter la réalité de ce qui est écrit sur l'étiquette. Et donc en ayant la capacité, au moins pour les produits en première transformation, de remonter sur ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que ça marcherait comment, pardonnez-moi?
Flash code.
Ben, vous pouvez imaginer que, je reprends l'exemple de la bouteille du vignoble dont je parlais tout à l'heure, d'avoir sur une bouteille un QR code qui vous permet d'avoir en instantané l'histoire de la conduite de la vigne et d'avoir une information sur le nombre de traitements.
Donc j'ai un flash code derrière la bouteille de vin que j'achète, je la scanne avec mon portable et j'ai les infos sur
l'ensemble de l'histoire. Et vous pouvez imaginer que demain vous ayez aussi l'information sur les résidus qui sont présents dedans.
Lise, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Lise, vous êtes la dernière, profitez-en.
Merci. Je voulais simplement poser une question sur la biodynamique. J'ai rencontré un agriculteur qui travaillait avec ça et ça a l'air un peu... C'est très en lien avec la nature. Ils plantent des cornes à l'envers sur le champ, ils les ramassent, ils font ça en fonction des lunes, des planètes, etc. Et visiblement, ça a des résultats très intéressants. En Australie, ils ont transformé un désert en un sol très très riche, avec une sédimentation très riche. Et est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ça en France et utiliser ces techniques-là?
Merci beaucoup pour cette question, Lise. Christian Huyghe, c'est quoi la biodynamique?
La biodynamie, c'est quelque chose qui n'est pas absolument bien défini. C'est-à-dire qu'il y a la différence de ce qu'on évoquait avant sur la traçabilité et les cahiers des charges. Les cahiers des charges en biodynamie ne sont pas écrits. Donc, il y a une certaine diversité, une certaine créativité où on fait appel au cycle lunaire, comme vient de le dire Lise, les cornes avec un certain nombre de choses dedans. Et il y a très peu de littérature scientifique qui a documenté ces effets-là. On retrouve pas la biodynamie dans l'ensemble des secteurs de production. Donc aujourd'hui, on a une.
Vous regardez ça avec beaucoup de circonspection.
Autant l'agriculture biologique, c'est quelque chose qui est basé sur des cahiers des charges largement partagés, largement discutés, avec des corpus de recherche absolument considérables. Donc l'agriculture biologique, oui.
Tiens, Lucas, puisqu'il nous reste une minute, nous explique qu'il est jeune agriculteur en cours de transition bio. Le principal problème, dit-il, selon moi, c'est le manque de connaissances des agriculteurs. Je pense aussi que le débat est pollué par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans les vignes ou dans les champs. Vous avez besoin, nous, d'avoir des informations, mais Éric Thirouin, les agriculteurs aussi ont besoin d'avoir une somme de connaissances aujourd'hui qui est peut-être très différente de celle qui était même quand vous avez commencé, finalement.
Oui, tout à fait, mais je pense qu'il est important que nous, agriculteurs, on se forme tout au long des années d'activité de notre métier. Et d'ailleurs, on a à notre disposition des conseils, on a des chambres d'agriculture, on a des coopératives, des vendeurs qui nous donnent aussi des conseils. On a des conseils de toutes sortes. Maintenant, on a ce qu'on a un certiphyto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de produits phytosanitaires sans qu'on ait fait une certification. Elle était tous les 10 ans, désormais elle sera à renouveler tous les 5 ans, voilà, pour faire en sorte que les agriculteurs soient toujours à la pointe et connaissent bien l'ensemble des techniques. C'est un élément important aussi dans le débat qu'on vient d'avoir.
Christian Huby, ce sera pour la conclusion. Quand on parle de ces fameux 3 ans, donc avant l'interdiction du glyphosate, vous, avec votre casquette d'INRA, est-ce que vous dites, comme les agriculteurs, non, 3 ans, c'est trop court pour nous?
D'abord, je ne me prononce pas sur la décision d'un gouvernement et d'un président.
Oui, qu'importe la décision, je vous demande juste le délai, vous, le scientifique, le délai de 3 ans.
Sur un certain nombre de configurations, c'est possible. Sur un certain nombre d'autres configurations, c'est difficile et il y a des impasses. Nous avons considéré dans un rapport qu'on a remis à la fin du mois de novembre qu'une impasse, c'était le moment où la seule alternative, c'était de repasser avec une intervention manuelle. Et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui.
Ce qui veut dire qu'on aura largement l'occasion d'en reparler ensemble. Tout au téléphone fait. Sonne et sur France Inter. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous.
Merci.
Pour les nombreuses questions comme tous les soirs.